voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Virginia Crespo.
Voici un nouveau volet de notre série d'émissions sur Canal Academy, les académiciens racontent l'histoire. Nous vous proposons de découvrir ou de mieux connaître le roi Louis XV sous la plume et l'esprit de l'académicien que fut le marquis d'Argenson, ministre des Affaires étrangères de Louis XV de 1744 à 1747. Son frère, le comte d'Argenson, fut secrétaire d'État à la guerre de 1743 à 1757. Grâce à des extraits, des mémoires et journal inédit du marquis d'Argenson, tome 1, vous allez être les témoins privilégiés de la lecture d'un portrait du cardinal de Fleury, l'ancien précepteur de Louis XV, qui de 1726 jusqu'à sa mort en 1743 dirigea la France aux côtés du roi Louis XV.
Monsieur le cardinal de Fleury est à la fois le ministre du roi et de la nation. Avec le temps, on lui rendra justice comme à Sully. On lui refuse d'avoir un vaste génie, mais nous sommes dans un temps où l'on peut se passer de cette trempe. Du moins, ne peut-on lui refuser l'esprit aimable, un grand usage du monde et de la cour, de l'aménité, de la politesse, même une galanterie décente et qui ne contrarie aucun des caractères graves dont il est revêtu. Ses qualités ministérielles sont la justesse d'esprit, la solidité dans les vues et les intentions, la franchise et la bonne foi vis-à-vis des étrangers. Une politique assez adroite, mais qui n'est point traîtresse. Il sait se démêler des pièges que lui tendent les courtisans, sans user de moyens perfides et machiavélistes. Il a soin de ne hasarder aucune dépense mal à propos, mais surtout de ne point mettre la nation en frais pour courir après des idées chimériques. Il met beaucoup de modération et de désintéressement dans ses dépenses personnelles. Il évite le faste et trouve beau et plus noble de se mettre au-dessus. Sa conduite à cet égard est l'égide qui l'oppose à ceux qui voudraient l'engager à leur faire des grâces extraordinaires qui ne serviraient qu'à nourrir leur luxe. Enfin, ce ministre semble fait pour assurer le bonheur dont nous jouissons sans l'altérer. Et c'est tout ce que nous pouvons désirer, car la France est à présent au point de pouvoir dire « Que les dieux ne m'ôtent rien, c'est tout ce que je leur demande ».
Après ce portrait plein de considération, d'admiration envers le cardinal de Fleury, ministre du roi Louis XV et de la nation, que le marquis d'Argenson vient de tracer, nous allons, toujours sous sa plume, assister cette fois au triste dénouement du ministère de ce même cardinal de Fleury. Pourquoi ? Comment ? Vous allez le découvrir dans un instant. Nous sommes donc en 1740, au début de la guerre de succession d'Autriche, donc à la mort de l'empereur Charles VI et à l'avènement de sa fille Marie-Thérèse.
À la fin de l'année 1736, tous les éloges que je viens de faire de M. le cardinal de Fleury et de M. de Chauvelin, le garde des Sceaux, les espérances que j'avais conçues du bien qui devait résulter de leur accord étaient vraies et justes. J'écrivais, comme je fais encore aujourd'hui, pour moi seul, et tout au plus pour mes enfants après ma mort. Ce que je voyais, ce que je croyais, ce que je pensais, sans préjugés et sans intérêt de tromper personne. Le cardinal venait de conclure une paix qui procurait au roi la Lorraine, province d'une richesse et d'une ressource immense, sans qu'il en eût presque rien coûté à la France. Notre militaire s'était distingué. Nous avions eu des succès partout, quoique nos généraux eussent fait quelquefois de grandes fautes. Notre royaume n'était pas à beaucoup près épuisé d'hommes et d'argent, ainsi qu'il l'a été depuis. La France était calme au-dedans et glorieuse au-dehors. « Mais les courtisans jouèrent un tour de leur métier au garde des Sceaux, ou plutôt à Monsieur le Cardinal, dont les 6 dernières années de sa longue vie se sont cruellement ressenties. On lui persuada que l'héritier désigné de sa place se lassait d'attendre, brûlait du désir de posséder son héritage et était capable de lui donner des dégoûts pour l'obliger à le lui abandonner. Le cardinal, qui peut-être peu de jours avant d'entrer au ministère ne l'ambitionnait pas, craignit de le perdre 10 ans après l'avoir obtenu, tant il est vrai que l'on s'accoutume aisément aux pas fort difficiles. Mais il oublia qu'il avait plus de 80 ans, qu'un second lui devenait de jour en jour plus nécessaire, et que, sans cet appui, il allait être le jouet des intrigues, que dans le courant même des affaires ordinaires, il n'aurait plus personne qui lui indiquât des expédients, et dont il pût faire ce qu'on appelle son bras droit. Il s'imagina qu'il se vengeait d'un traître, et il perdit un homme qui lui était nécessaire. Il fit un coup d'éclat qui prouvait son crédit sur l'esprit du roi, mais personne n'en doutait. Le roi n'avait jamais eu avec Monsieur de Chauvelin une seule conversation tête à tête. Sa tournure même ne lui convenait pas. Sa familiarité, ses éclats de rire, le ton de ses plaisanteries lui déplaisaient à l'excès. Mais les courtisans, plus fins que le Premier ministre, sentirent que, comme le cardinal pouvait tout obtenir du roi, d'un autre côté, il pourrait dorénavant tout obtenir du Premier ministre, même ce qui était le plus contraire au bien de l'État et à ses principes. L'empereur Charles VI n'avait fait de si grands avantages à la France que pour s'assurer la garantie de cette puissance pour sa pragmatique sanction, c'est-à-dire pour l'acte qui assurait l'intégrité de ses États à sa fille aînée. Le cardinal l'avait promis, et la réputation de vertu et de bonne foi dont il avait joui jusqu'alors avait tranquillisé l'empereur sur l'effet de cette promesse. Aussi Charles VI mourut-il en 1740, dans la douce persuasion que sa fille et son gendre hériteraient de toutes ses couronnes et que, si quelqu'un voulait les troubler dans cette possession, la France elle-même les défendrait. Il n'y avait que la reine d'Espagne qui n'était pas très contente de n'avoir pas eu un établissement en Italie pour son second fils, Don Philippe. Quelque injuste que fût cette prétention, il eût été possible de la satisfaire sans entreprendre d'anéantir la nouvelle maison d'Autriche. Mais alors celui qui aurait pu arranger cette affaire en habile et sage politique était exilé à Bourges. Des négociateurs, ou plutôt des intrigants, plus dangereux et moins délicats, troublèrent la tête d'un premier ministre de 86 ans, et la ruine de la maison d'Autriche fut résolue. On la lui fit regarder comme si aisée qu'il aurait eu à se reprocher d'avoir manqué une si belle occasion d'effacer presque jusqu'à la mémoire de la prétention de Charles Quint à la monarchie universelle. On lui dit qu'il serait comptable envers la postérité s'il négligeait d'en profiter. Le pauvre cardinal en fut si persuadé qu'il ne disputa plus que sur les grands frais dans lesquels cette entreprise jetterait la France. Il craignit qu'elle n'épuisât ses épargnes et ne dérangeât son système d'économie. On lui fit entendre que la France en serait peut-être quitte pour se montrer seulement, ou du moins qu'il en coûterait peu d'hommes et peu d'argent. Il se laissa séduire. Il donna beaucoup plus qu'il ne voulait, beaucoup moins qu'il ne fallait. Et il mourut décrié aux yeux de toute l'Europe, trahi par une partie de ses alliés, haï de l'autre, ayant manqué de se concilier ce dont il devait le plus s'assurer, tel que le roi de Sardaigne. Il laissa la France dans la plus grande détresse et engagé dans une guerre par mer, sans avoir pris aucune mesure pour l'empêcher, ni la soutenir. Solon disait à Crésus que nul ne pouvait se dire heureux avant sa mort. Ne pourrait-on pas dire également que l'on n'est jamais sûr d'être, jusqu'à la fin de ses jours, habile, politique, sage, ni même vertueux ?
Le 5 septembre 1725, le jeune Louis XV, âgé de 15 ans, épouse à Fontainebleau Marie Leszczyńska. Elle a 22 ans, elle est la fille du roi détrôné de Pologne, Stanislas Leszczyński. Ils auront 10 enfants, dont 3 moururent en bas âge.
Sans sortir du respect dû à notre reine, dont les vertus sont rares au milieu d'une cour corrompue, je me suis amusé au conte que me fait une dame du palais qui aime à jaser comme les femmes de chambre font d'ordinaire sur leur maîtresse. Je sais aussi des nouvelles de cette petite cour par mon frère, qui de tout temps y fut admis. Le nom de société qu'il y a reçu est celui de Cadet, et la reine ne le nomme pas autrement. Le cardinal de Tencin, qui jouit de la même intimité, le nomme de même. Or, il faut savoir que Sa Majesté a toute liberté de voir qui elle veut et quand elle veut. Voici le motif de l'amitié dont elle honore mon frère. Quand celui-ci alla à Rastatt négocier le mariage de la jeune duchesse d'Orléans et qu'on lui fit d'abord des difficultés, il revint par Strasbourg et y vit le roi Stanislas et sa fille. À son retour à Versailles, où il était venu prendre de nouveaux ordres, il dit 1000 biens de la princesse Leszczyńska, la proposant pour duchesse d'Orléans, et c'est ce qui suggéra sans doute l'idée de l'élever au trône. Le roi Stanislas le sut et a traité depuis mon frère avec des égards particuliers. La reine est persuadée que mon frère travaille sous main à lui rendre les bonnes grâces de son époux, ce qui serait le comble de ses vœux. Cela me paraît difficile, d'autant qu'au dire de la dame du palais dont j'ai parlé, si le roi a pris une maîtresse, la première faute en fut à la reine. Lorsque la reine vint à la cour de France, elle crut remarquer qu'il était de bon air de faire peu de cas des empressements de son époux et des plaisirs du mariage. Elle prétendit suivre cette mode et faire la dégoûter. Elle disait « Et quoi, toujours couchée, toujours grosse et toujours accouchée ?» En conséquence, elle faisait faire de longs jeûnes au roi, sous prétexte de sa santé. Elle semblait dédaigner ce qu'elle pleure amèrement aujourd'hui. Ensuite, il faut savoir que la reine a peur des esprits. Pour la rassurer, il lui faut toujours une de ses femmes à sa portée pendant la nuit, et il faut que cette femme lui fasse des contes pour l'endormir. À peine s'éloignait-elle quand le roi arrivait. La reine ne dort presque pas. Elle se lève 100 fois dans une nuit pour chercher sa chienne. Enfin, elle met positivement un matelas sur elle, tant elle est frileuse, de sorte que le roi étouffait et se levait tout en sueur, n'y pouvant plus tenir. Il se retirait dans sa chambre et dans son lit pour y dormir à son aise. C'est ce qui d'abord lui a fait aimer les voyages de Rambouillet et l'a conduit peu à peu à avoir une maîtresse, Madame de Mailly, à laquelle il tient, quoique médiocrement jolie. Mais celle-ci l'aime avec passion, à ce qu'il croit du moins, et c'est beaucoup. Pour ce qui est de la société, au commencement de son mariage, le roi voulait passer ses soirées chez la reine, y jouer et y causer. La reine, au lieu de l'y attirer, de l'y mettre à son aise, de l'y amuser, faisait toujours la dédaigneuse. Aussi le roi en prit-il du dégoût et s'habitua à passer ses soirées chez lui, d'abord avec des hommes, puis avec des femmes, sa cousine de Charolois, Madame la comtesse de Toulouse, etc. Le roi est fort timide de son naturel et recherche les gens avec lesquels il peut être à l'aise. Quand il les a rencontrés une fois, on voit assez par la durée du ministère du cardinal et de celui de Madame de Mailly à quel point il est homme d'habitude. Il en est résulté que le roi et la reine, ayant eu 7 enfants, ne se sont presque point parlé de leur vie. Et s'ils ont vécu ensemble pour le bien de l'État, ils ne devraient avoir mis au monde que des enfants tristes et stupides. Il en est pourtant arrivé autrement, car M. le Dauphin est très joli et a de l'esprit. On en dit autant de mesdames ses sœurs. La reine est aujourd'hui dans une cruelle situation, à cause de Madame de Mailly, qu'elle est obligée de garder pour dame du palais. Pendant les semaines de cette dame, il lui prend une humeur horrible et tous ses domestiques s'en ressentent. Certes, c'est lui rendre un grand service que de se trouver, à l'après-souper, en tiers, entre elle et Madame de Mailly. La reine croit, et cela paraît certain, que Madame de Mailly l'examine sans cesse pour lui trouver de nouveaux ridicules et égayer le roi à ses dépens dès qu'elle l'a quitté. C'est une indignité. La reine ne peut veiller dans sa chambre, ni y rester après son souper. Il faut qu'elle aille causer chez quelques dames du palais, surtout chez la duchesse de Villars, sa dame d'Atour. Là se trouve le cardinal de Tencin, souvent mon frère.
Commence chaque journée comme si elle avait été écrite pour toi.
Toujours le sieur de Moncrif.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
L'abbé de Breuil, tressant, exempt des gardes, etc. On y médite assez joliment. La conversation est même fort gaie.
Nous passons maintenant à des lectures d'extraits du tome 2 des Mémoires et journal inédits du marquis d'Argenson. Nous abordons le thème des misères des provinces françaises entre 1725 jusqu'à la fin de 1740. En matière d'économie et de finances, les idées du marquis d'Argenson étaient les suivantes. Il vaut mieux hausser que baisser le prix des monnaies, disait-il. Cette opération, maintenue en de justes limites, enrichit les peuples en aidant à acquitter les dettes. Baisser le prix des monnaies, au contraire, les appauvrit. La prospérité des États, comme celle des particuliers, consiste à devoir le moins possible et conséquemment, les lois doivent favoriser les débiteurs et leur faciliter les moyens de se liquider. Retrouvons donc ensemble le marquis d'Argenson, ministre des Affaires étrangères du roi Louis XV.
Peu importe mes idées, dira-t-on peut-être, ce sont celles de nos gouvernants qui importent davantage, et ce n'est malheureusement que trop vrai. On a imaginé, afin de répandre l'argent dans Paris, de donner de grandes et ridicules fêtes pour le mariage de Madame Première avec l'infant Don Philippe, comme s'il n'y avait pas 100 emplois plus utiles pour le pauvre peuple à faire de l'argent amassé dans les coffres royaux, à commencer par une réduction sur les tailles, si vivement désirée. Mais nos ministres sont enchantés de leurs belles opérations, tant ils se croient supérieurs aux événements et maîtres du mal par leurs remèdes. On dit que les receveurs généraux eux-mêmes demandent la réduction des tailles. Novembre 1740. On n'ose plus sortir dans les rues de Paris dès 7 heures du soir, et partout les Suisses font la patrouille à la place du guet. Le pain est maintenu à 5 sous moins un liard, grâce aux exactions que l'on exerce sur les malheureuses provinces. On craint à chaque instant des révoltes générales. Dans plusieurs villes, les habitants ont dit que, tant qu'il leur resterait des bâtons et des fourches, ils empêcheraient bien qu'on enlevât leur grain. On a été obligé de couvrir le froment d'avoine et d'employer d'autres ruses pour tromper la surveillance. Le duc de La Rochefoucauld a dit au roi que Sa Majesté ignorait peut-être en quel état étaient ses provinces, que cela passait toute idée, que tout était fardé ici, que le ministère ne travaillait qu'à déguiser le mal, à feindre l'abondance dans Paris, mais que, dans les provinces où il y avait tant de détresse l'an dernier, on était au double misérable cette année, et que celle qui était le mieux l'an passé était maintenant à l'égal des autres. À cela, Sa Majesté a répondu qu'elle le savait fort bien, qu'elle savait même que le royaume avait diminué d'un sixième depuis un an. Le cardinal en est aussi convaincu, et comme on lui parlait de la possibilité d'une guerre étrangère, son éminence a répondu avec son ton doucereux que ce serait impossible, vu qu'on manquait d'hommes en France. Il est positif qu'il ait mort plus de Français de misère depuis 2 ans que n'en ont tué toutes les guerres de Louis XIV. Comme on plaisante ici sur les choses les plus sérieuses, il court une épigramme sur le cardinal dont je n'ai retenu que le trait. La France est un malade que, depuis 100 ans, 3 médecins de rouge vêtus ont successivement traité. Le premier, Richelieu, l'a saigné. Le second, Mazarin, l'a purgé. Et le troisième, Fleury, l'a mise à la diète. 1739. Le roi lit les mémoires de Sully ou les économies royales. Je sais qui a eu le plus de part à le porter à cette lecture longue et assidue, en lui disant que c'était la meilleure lecture que put faire un homme d'État, et le règne de Henri IV le meilleur des modèles, bien préférable à la brillante fatuité de celui de Louis XIV. Le cardinal de Fleury le trouva très occupé de cette lecture, et comme son éminence est fort modeste, elle feuilleta le livre, et montra d'abord au roi ce passage où Henri le Grand dit à la belle Gabrielle « Je trouverai dans ce royaume 200 femmes aussi belles que vous. Je n'y trouverai pas deux ministres comme Sully. Si le cardinal a voulu que le roi lui en fît l'application, telle n'est pas assurément l'opinion générale, ou si elle l'a été, on en est bien revenu. Sa majesté fait réellement un travail de chien pour ses chiens. Dès le commencement de l'année, il prévoit tout ce que feront ses chiens jusqu'à la fin. Il en a 5 à 6 équipages et fixe lui-même leurs jours de chasse, de repos et de marche. Je ne parle pas seulement du mélange et des ménagements des jeunes et des vieux chiens, de leurs mœurs et qualités, que le roi possède mieux que jamais personne de ses équipages ne les a connus. Mais l'arrangement de toutes ces marches, suivant les voyages projetés ou à projeter, se fait d'après des cartes et un calendrier combinés. Et l'on prétend que Sa Majesté mènerait ses finances et le département de la guerre avec beaucoup moins de travail que ceci n'en exige. Cela annonce toujours que le roi a le goût du travail, le penchant à l'ordre, à la méthode, au détail quand il le faut, ce qui le conduira à faire de grandes choses quand il changera de canevas. Les plus grands hommes n'ont pas négligé les détails, comme l'a remarqué le cardinal de Ré de Richelieu. Le roi montre un goût assez vif pour décider, et quand le cardinal n'y sera plus, Sa Majesté aimera à décider. Peut-être ne déciderait-elle pas toujours avec justesse, non par manque d'esprit, mais par manque de méditation, de réflexion, d'expérience et de fond de connaissance. Le roi a l'esprit vif et bon, mais il court risque de se tromper en allant si vite et ne revenant jamais sur ses pas. S'il s'aperçoit lui-même qu'il s'est trompé, il abandonnera la besogne et laissera faire à ses ministres pour retomber dans sa nonchalance. Le roi est colère par faiblesse, comme une femme ou un enfant, mais n'étant ni méchant ni inhumain, le roi n'est pas rancunier, et ses petits dépits produisent seulement un dégoût éternel pour ceux qu'il hait. Toutes les personnes qui s'intéressent à Sa Majesté voient avec peine l'habitude qu'elle a prise, et qui au fond n'est qu'un véritable tic, de parler avec un air de plaisir de la mort ou de l'extrémité de ses serviteurs. J'ai été témoin que la reine lui a demandé des nouvelles d'un pauvre chirurgien de sa suite qui s'est cassé la tête à la chasse. Sa Majesté répondit en riant, « Il est mort ou peu s'en faut. » Au fond, il est affligé, et ce n'est qu'un misérable tic. 30 juillet 1739. Quelqu'un qui a vu le roi de près au camp de Compiègne m'a assuré que, malgré la difficulté qu'il y a de connaître au vrai le caractère de Sa Majesté, elle paraît marquée de l'entente et le désir de bien faire. Cependant, on a trouvé au camp que le roi était enfant des pieds à la tête, plus que l'on avait cru, qu'il s'amusait des amusements d'enfant, comme aurait fait Monsieur le duc de Chartres. Le roi a près de 30 ans. Être enfant, c'est posséder cette vivacité d'imagination qui porte à s'amuser de bagatelles, et avec une inconstance soudaine. Joli défaut plus que blâmable, et qui peut durer jusqu'à 50 ans. Mais ensuite, le roi est entêté sur 4 ou 5 points, dont il ne démordrait pour rien au monde. Ce qui provient, partie de cet enfantillage, partie d'une opinion que la fermeté est bonne au prince, opinion sage et digne d'un homme fait. Parmi ses sujets d'entêtement est l'idée qu'il doit être maître absolu de ce qui concerne son personnel, voyage, souper, maîtresse, valet, etc. Sur quoi, par une révolution totale et subite, il s'oppose à ce que le cardinal s'en mêle un seul instant. Un autre point d'entêtement est la persuasion où il est que ce serait se montrer ingrat que de le déplacer, que ce serait poignarder son vieux précepteur, surtout si ceux qui le remplaçaient n'étaient pas conformes à ses vœux. À quoi se joignent la paresse du roi, la défiance de soi-même et l'envie que les affaires aillent bien sans se donner de peine et sans quitter les volages plaisirs auxquels il est porté par inclination.
À partir de 1732, plusieurs favorites jouent un rôle important dans la vie personnelle du roi Louis XV. La marquise de Pompadour devient maîtresse du roi en 1745, année au cours de laquelle Voltaire est nommé historiographe du roi. Madame de Pompadour réside à Versailles de 1745 jusqu'à sa mort en 1764. Maîtresse, puis amie et conseillère du roi Louis XV, elle exerce un rôle politique, sans parler de son influence prépondérante dans le domaine des arts. Elle place sous sa protection le peintre François Boucher, soutient nombre d'artistes, à l'instar du sculpteur Jean-Baptiste Pigalle, par exemple. Elle fait nommer au poste de directeur des bâtiments son frère, le marquis de Marigny. Voici comment l'académicien Pierre de Nolhac, historien d'art, poète, élu en 1922 au fauteuil 32 de l'Académie française, à qui nous devons de nombreux ouvrages sur le musée de Versailles, le château de Versailles, la création de Versailles, Louis XV et Marie Leszinska, Louis XV et Madame de Pompadour, Madame de Pompadour et la politique et bien d'autres. Écoutons ensemble des lectures extraites de son ouvrage Louis XV et Madame de Pompadour, 1745-1752, chapitre 1er, Madame le Normand d'Étiolles.
Versailles ne fut jamais plus animée et pour une fête plus brillante que le soir du 25 février 1745. C'était la dernière des grandes réjouissances de la cour en l'honneur du mariage du dauphin avec l'infante d'Espagne. La tradition voulait que le roi de France conviât le plus grand nombre de ses sujets à célébrer avec lui cet heureux événement. Comme les jours précédents, le château était illuminé sur les façades du côté des cours. Par le froid sec de cette nuit d'hiver, les compagnies qu'amenaient tous les carrosses de la capitale apercevait de loin ces lignes de lumière qui montaient vers le ciel et semblaient dessiner un palais de fées. Vers le milieu de la nuit, l'affluence redoubla. Le grand appartement et le jeu de la reine, commencé à 6 heures dans la galerie des glaces, avaient pris fin à 9 heures, pour laisser le roi et la reine manger à leur grand couvert. À minuit devait s'ouvrir le bal masqué. Un nouveau public entrait alors. C'était Paris qui arrivait pour avoir sa part des réjouissances royales. Deux files de carrosses avançaient lentement dans l'avant-cour. Les masques mettaient pied à terre à l'escalier de marbre et à la cour de la chapelle et pénétraient des deux côtés dans les appartements. Aucun billet n'était exigé. Dans chaque société, une personne se démasquait. L'huissier prenait son nom et comptait ceux qui entraient avec elle. Comme on donnait le nom que l'on voulait, une formalité aussi simple n'avait rien de sévère, et même le flux des arrivants la rendit bientôt impossible. Les barrières de chêne furent forcées. Tout le monde passa librement, se dirigeant à travers les antichambres et les salons remplis de danses, d'orchestres et de buffets vers la grande galerie qui était le centre de la fête. Cette cohue, que décrivent les mémoires, se transforme dans la célèbre estampe des cochins en une élégante foule qui circule aisément parmi le décor magnifique. La galerie ruisselle de lumière. Lustres, torchères et girandoles se multiplient dans les glaces. Sous le plafond pompeux de Lebrun s'anime la mascarade. Arlequins et colombines, turcs, arméniens, chinois, médecins à haute perruque, sauvages emplumés, pèlerins et pèlerines, bergers, magiciens, diables et folies. Les dames, placées sur les gradins, prennent des rafraîchissements offerts par les pages. Un groupe dans un coin, sur le parquet, boite et mange. Il est là pour rappeler que 500 à 600 masques assis par terre dans les salons voisins, se gobergèrent aux frais du roi de victuailles pillées au buffet. Qu'il y eût beaucoup de bourgeoisie et de la plus mince, la princesse de Conti n'en saurait douter. Elle ne trouve pas une place à prendre. Un masque lui refuse la sienne, et quand elle se découvre, voyant qu'on ne la reconnaît pas, « Il faut, dit-elle, qu'on soit ici de bien mauvaise compagnie. » Il n'est pourtant pas que des manants sous les déguisements de cette nuit. Quelqu'un qui s'assied fort près de la reine et qui passe inaperçu est un fils de roi, le prétendant Charles-Édouard, qui mettra l'Angleterre en feu l'année suivante. Si tous les dominos tombaient, on percerait bien d'autres mystères. Une porte de glace s'est ouverte et la foule s'écarte devant des personnages non masqués qui s'avancent entourés de curiosité et d'hommages. La reine, posant la main sur le bras de son chevalier d'honneur, précède le dauphin, costumé en jardinier, qui tient le bout des doigts de la dauphine, travestie en bouquetière. Derrière eux sont le duc et la duchesse de Chartres, qui danseront dans leur quadrille. Le graveur a marqué nettement tous ces portraits princiers qu'il est aisé de reconnaître. Seul Louis XV semble manquer à la fête. Mais voici qu'une singulière compagnie vient de sortir de l'appartement royal. Ce sont des ifs, taillés dans le goût de ceux des jardins. Le roi est l'un de ces huit masques, sans doute celui qu'entourent d'aimables jeunes femmes intriguées par le secret à demi connu et par la difficulté de le découvrir complètement. Une comédie se joue dans ce coin du bal, comédie plus sérieuse qu'il ne semble, car les conséquences de cette soirée seront considérables pour la monarchie. Sur tant de femmes de finance ou de magistrature, ou simples bourgeoises de Paris, venues étaler à la cour leurs grâces inédites et le goût de leurs ajustements, et qui se démasquent à l'envi, combien rêvent de rencontrer le roi et de fixer son caprice. Un témoin nous le raconte. Toutes les beautés de la ville se sont rassemblées ce jour-là pour conquérir ce jeune souverain couvert de gloire, dont le cœur est libre et qui est le plus bel homme de son royaume. La foule des prétendantes est infinie, dit l'abbé de Berny, qui voit leur manège et qui connaît la plupart d'entre elles. Il mentionne même le succès d'une jeune fille, extrêmement belle, dont les parents sont de ses amis. Un chroniqueur plus indiscret cite une présidente libertine, évidemment Madame Portail, qui se laisse emmener dans les petits appartements par un if qu'elle a pris pour le roi. Cette hardiesse des bourgeoises, ce soir-là, s'explique à merveille. C'est une occasion rare d'approcher Louis XV. Les femmes de cour ne manquent point, qui aspirent à l'honneur de faire oublier au maître Madame de Châteauroux. Tout le monde nomme la dernière des sœurs de Nel, la duchesse de Lauragais, qui se croit sûre de réussir, ayant su plaire à défaut de beauté par son caquet et son entrain. On connaît moins les manœuvres de la belle princesse de Rohan, qui sacrifie le repos de sa vie et l'attachement le plus tendre à ce rêve qui la dévore. Mais des facilités presque quotidiennes de parler au roi se présentent aux femmes de leur rang, tandis qu'aux Vénus et aux Junons de la capitale, le moment est unique pour attirer son regard. Celle qui doit l'emporter sur toutes apparut au bal de Versailles, dans l'éclat d'une beauté jeune et audacieuse. Elle n'est pas absente de la composition où les Cochin, père et fils, ont fixé pour la curiosité de l'avenir les épisodes de la fête. La jeune femme de profil, qu'on voit au milieu de la compagnie du roi, causant avec un if mystérieux, n'est autre que Madame le Normand d'Étiole. Si Madame le Normand d'Étiole, née poisson, ne fut point entrée à ce moment dans la vie de Louis XV, le règne aurait pris sans doute une toute autre orientation. La politique se serait trouvée différente dans les questions financières, dans les difficultés religieuses, et peut-être aussi dans les relations diplomatiques. À la date où l'on arrivait et qui devait compter dans l'histoire de la royauté française, il n'était point sans intérêt qu'une femme, supérieure par son intelligence et habile à s'en servir, s'emparât à nouveau d'un roi absolu, plus maître de son royaume et plus jaloux de son pouvoir que n'avait été Louis XIV lui-même. Cette puissance presque sans limite du roi de France d'alors dépendait des caprices d'une âme inquiète et fuyante, que l'ennui rongeait plus que la débauche, mais dont la volonté pouvait sombrer dans les passions basses. Quoiqu'il semblât s'abandonner au ministre pour certains détails du gouvernement, et qu'il parût aisé à prendre par les voies du plaisir, il était difficile d'obtenir sur lui une domination quelconque et d'arriver à la conserver longtemps. Toute autre femme que Madame d'Étiole y eût échoué sans doute. Si la morale flétrit son triomphe et si l'histoire en blâme les conséquences, on lui doit du moins cette justice qu'elle a réussi une œuvre compliquée et presque impossible. Quelle que dût être la favorite de demain, chacun sentait, parmi ceux que n'aveuglait pas l'intérêt trop direct ou l'esprit de caste, que le rôle d'une duchesse de Châteauroux, appuyée sur sa naissance et sur son orgueil, ne serait plus tenu par personne. Le temps des grandes dames était passé. Les fantaisies royales allaient s'adresser à la classe que représentait Madame d'Étiole. Cela semblait inévitable et tout l'annonçait. Louis XV montre un besoin de changement auquel ses familiers ne se trompent pas. À 35 ans, après les expériences qu'il a faites durant son singulier attachement aux trois sœurs de Nesle, il devine trop bien les calculs de la cour et les pièges tendus à son cœur. Le goût lui est venu de joindre au plaisir la connaissance des mœurs autres que celles qui l'entourent, de passions qu'il croit moins mêlées de cupidité et qu'il s'imagine plus sincères. Il est renseigné sur les femmes de Paris, par la chronique scandaleuse que lui apportent chaque matin ses valets de chambre, par le secret des postes, qu'on viole quelquefois pour le distraire. Et ce qu'il a appris d'elle lui a donné l'envie de voir de plus près cette catégorie de ses sujettes. Son mentor dans l'inconduite, Monsieur de Richelieu, qui exerce ses ravages sur toutes sortes de cœurs et ne dédaigne point la roture, lui a fait sur ce point les confidences les plus instructives. Y a-t-il une passion plus vraie dans sa violence, plus intéressante dans sa folie, pour un égoïste curieux de sensations rares, que celle dont se meurt, à cause de Richelieu, Madame de la Popelinière ? On devine, entre les deux hommes inégalement blasés, mais également étrangers à l'amour véritable, des conversations destinées à porter bientôt leurs conséquences. Peut-être entre-t-il dans la résolution du roi une sorte d'égard nouveau pour la reine, tant de fois déjà blessée cruellement. Louis XV peut s'imaginer alors qu'il la ménagera davantage. Il sait quelles humiliations elle a souffertes à voir choisir ses rivales parmi les dames de son palais, celles dont il lui fallait tous les jours, d'après l'étiquette, subir la présence et les hommages. Comment, d'autre part, ne point penser à des filles qui grandissent, aux dauphins, qui se marie à cette heure et déjà condamne ouvertement, par tendre amour pour sa mère et au nom de son éducation chrétienne, la conduite paternelle. Ces considérations, pour vulgaires qu'elles apparaissent et démodées parmi les mœurs du siècle, pèsent encore de quelque poids. Les incidents survenus à Metz autour du roi malade ont montré la force conservée par les principes qui sauvegardent la famille. Le mépris manifesté contre Madame de Châteauroux, l'appui que le parti dévot, comme on l'appelle, a trouvé dans l'opinion publique, font connaître à Louis XV qu'il doit compter avec la moralité de la nation et qu'elle ne tolère pas aisément certains excès de scandale. S'il lui est impossible de revenir à la reine, il peut veiller du moins à ce que son adultère ne s'affiche plus. Ce beau nom de Louis le Bien-Aimé, que son peuple lui a donné pendant sa maladie dangereuse, ne lui sera conservé qu'à ce prix. Même s'il était indifférent à tant de choses, le roi Louis XV ne le serait point à sa tranquillité personnelle. Les tracasseries le troublent et l'irritent. Ce n'est pas de sa famille, de ses prêtres, ni même de l'opinion, que lui viennent celles qu'il ressent davantage. Elles sortent de la situation équivoque où le mettent les choix qu'il a faits jusqu'à présent. Une maîtresse prise à la cour et déclarée, comme elles veulent l'être toutes, amène mille difficultés. L'intrigue du gouvernement menace sans cesse d'exploiter la passion royale. Celle-ci se complique, aussi bien dans la vie quotidienne qu'aux heures inévitables de la rupture, des intérêts qui s'y trouvent engagés et qui parfois touchent de près le trône. Le roi ne veut donc plus des femmes de naissance. Il les trouve orgueilleuses, avides ou dominatrices. Il est dégoûté des inconvénients politiques qu'elles entraînent. Ces dispositions nouvelles sont de bruit public. Et le tiers-état s'en estime honoré. On se risque à espérer l'étrange fortune. Toutes les bourgeoises, que ne retient ni leur miroir ni leur conscience, s'imaginent avoir des chances de conquête. Ainsi s'explique la surexcitation ambitieuse qui a tourné autour de Louis XV pendant le bal masqué du mariage du dauphin. C'était une fête vraiment célébrée par la nation tout entière que ce mariage du dauphin, qui achevait de sceller l'alliance, si compromise, au moment des secondes fiançailles de Louis XV, entre les deux branches de la maison de Bourbon. Plus encore que le mariage, contracté 5 ans plus tôt par la fille aînée du roi avec l'infant Don Philippe, l'union nouvelle fut l'occasion de cérémonies et de réjouissances exceptionnelles. La cour, selon l'usage, en avait commencé la série. On avait eu, à Versailles, avant la soirée du bal masqué, un magnifique bal paré qu'a dessiné Cochin et où la dauphine montra, au menuet, ses grâces espagnoles. Il fut dansé dans la somptueuse salle du manège, décorée par les Slots en 1737 et qui servait, en attendant la construction d'un opéra, à toutes les fêtes données par le roi. Le jour même des noces, dans ce beau lieu transformé en salle de spectacle et garni de loges fleuries, avait été représenté un ballet de circonstance, La Princesse de Navarre, œuvre allégorique de Voltaire et de Rameau, où l'apothéose finale supposait que le roi y viendrait, mais incognito, le dauphin seul devant y paraître pour remercier ces messieurs de la ville de la joie témoignée pour son mariage. C'était la nuit du dimanche gras. Le prévôt des marchands avait fait ajouter à la grande salle une deuxième, construite dans la cour, d'une architecture de dorures et de glace et dont le plafond atteignait la hauteur des toits. Sur cette cour donnait l'appartement préparé pour le dauphin.
L'académicien historien Pierre de Nolhac vient donc d'évoquer La Princesse de Navarre, œuvre allégorique de Voltaire et de Rameau, grâce à la lecture d'un nouvel extrait de son livre « Louis XV et Madame de Pompadour », il décrit maintenant la relation entre Voltaire et Madame de Pompadour, maîtresse donc du roi Louis XV.
Voltaire, qui a été le premier courtisan de la fortune naissante de Madame d'Étiolles, est aussi le premier obligé de Madame de Pompadour. Il lui doit déjà le don gratuit de la première charge vacante de gentilhomme de la chambre du roi. Un beau cadeau en vérité, qui représente environ 60 000 livres. La charge d'historiographe, dont il a en même temps le brevet, lui vaut, avec 2000 livres d'appointement, le droit de flatter officiellement Sa Majesté. Le prétexte des faveurs royales, vainement sollicité jusqu'alors par l'auteur de la Henriade, a été le ballet du mariage La Princesse de Navarre. Mais c'est Madame d'Étiolles qui les a obtenus au poète, et il a bénéficié de la première prière peut-être qu'elle ait faite au roi. Il n'aurait garde de négliger une amitié qui promet d'être avantageuse et peut lui assurer, par exemple, l'Académie, qui l'a jusqu'à présent écartée. Tout ce printemps, tout cet été, Voltaire tourne autour d'Étiolles. Fort aise qu'on sache qu'il est dans les confidences. Il ne quitte le duc et la duchesse de la Vallière, ses protecteurs du moment, que pour aller chez sa nouvelle déesse. « Je suis tantôt à Champs, tantôt à Étiolles », écrit-il au marquis d'Argenson, qui est sous Tournai avec le roi, et qui doit montrer sa lettre. Au mois d'août, écrivant d'Étiolles même, il rend compte gaiement au ministre qu'il se dit de lui infiniment de mal chez Madame de Pompadour. Il y donne la première lecture de ce poème sur la bataille de Fontenoy, qui est pour lui une grande affaire. Né courtisan, il a toujours aspiré à devenir le poeta regius de quelque monarque. Et cette carrière, avec ses honneurs lucratifs et la liberté qu'elle assure, suffit encore à ses ambitions. Mais il atteint la cinquantaine sans être plus avancé qu'il y a 20 ans, alors qu'il se figurait avoir conquis les bonnes grâces de Madame de Prie. L'élévation d'une autre favorite et la victoire des armées françaises lui semblent occasion favorable pour prendre sa revanche en la meilleure aubaine de sa vie.
Les lectures des textes du marquis d'Argenson ont été assurées par le comédien Michel Girard et celles de Pierre de Nolhac par le comédien Arnaud Victor. Habillage musical et sonore par Éric Boutaz, réalisation Virginia Crespo. D'autres lectures de textes d'académiciens vous attendent et vous sont proposées en téléchargement gratuit sur Canal Académie. Ces textes d'académiciens évoquent de grands personnages de l'histoire de France tels qu'Henri IV, Louis XIV, Louis XV ou encore l'impératrice Eugénie de Montijo, épouse impériale de Napoléon III.